Chapitre 52. L'obscurité était arrivée bien plus tôt que Vera ne l'avait imaginé, alors qu'il devait lui rester la moitié du chemin à parcourir. Les cristaux de neige avaient scintillé jusqu'à ce que la lumière s'essouffle, que les ombres allongées des sapins se meurent et que, progressivement, le rose du ciel laisse place à l'armée noire des ténèbres. Seul subsistait, vers l'est, un timide croissant de lune, qui peignait d'une infime couche de clarté le sinistre paysage resserré autour d'elle. Vera progressait au courage. La torture physique qu'elle subissait dépassait largement le seuil de douleur qu'elle se croyait capable de tolérer, mais il fallait avancer. En situation de survie, elle en avait conscience, tout était question de temps. D'autant que malgré ses multiples paires de chaussettes, ses pieds étaient gelés, et puis ses lèvres se fendaient. L'acide lactique empoisonnait ses muscles et transformait chaque pas en calvaire. Une sueur glacée imbibait ses habits. Sans compter qu'elle crevait de soif, mais il était totalement exclu qu'elle boive. À l'aide de sa lampe frontale, elle guettait les marques rouges qui lui indiquaient la bonne direction. Ça n'en finissait pas. Des marques rouges, des troncs. Des marques rouges, des troncs. Dans un monde ordinaire, les forêts murmuraient. Il s'élevait toujours un cri d'animal, un chant d'oiseau, un bruissement de feuilles ou le clapotis d'un cours d'eau. Pas ici. Dans cet univers hostile, le gel emprisonnait tout ce qui rappelait la vie, jusqu'aux gouttelettes expulsées de sa gorge sifflante. Elle était une proie idéale. Elle le savait. Si elle s'arrêtait, ne fût-ce qu'un instant, le froid la dévorerait. Elle crut ne pas réussir, mais elle arriva, enfin, à la bifurcation où les marques passaient du rouge au rose fluorescent. À droite, le hameau, à 20 minutes. À gauche, son chalet, à 10 minutes. Elle avait fait le plus dur. Elle tourna à gauche et remarqua alors de profondes empreintes orientées dans cette direction. Elle se pencha pour éclairer les motifs, des zigzags. Le rôdeur était revenu, et c'était tout récent. Vera nota que l'inconnu avait piétiné au niveau de l'embranchement. Il avait dû voir ses traces à elle sur l'autre sentier, et avait pourtant décidé de continuer son chemin. Ça voulait dire qu'il était chez elle, qu'il l'y attendait. Et cette fois, il ne s'agissait plus d'un murmure dans sa tête, ni d'une construction de son esprit. Le monstre était là, l'objet de ses cauchemars, le responsable de son malheur. Vera éteignit sur le champ sa lampe frontale. La lueur de la lune suffirait à la guider. Dans le silence absolu de la forêt, elle avait l'impression que la neige craquant sous ses pas s'entendait jusqu'aux confins de l'univers. Soudain, après un virage, elle distingua au loin la source rougeoyante du poêle qui dansait par les fenêtres de son chalet. Une épaisse fumée blanche s'échappait du toit. Ça faisait plus de 7 ou 8 heures qu'elle était partie. Les braises n'auraient pas tenu aussi longtemps. C'était donc sûr à présent, il était là, dans son foyer, et il avait ranimé le feu. Elle ôta ses raquettes et les abandonna contre un tronc. Avant que le sentier ne commence à descendre, elle discerna subitement une forme noire, droit devant elle, qui semblait flotter au-dessus de la neige. Elle pensa à un animal, mais comprit vite que c'était impossible, parce qu'il n'y avait pas d'animaux, parce que ce truc ne bougeait pas. Elle hésita, puis avança au ralenti. Sur le coup, elle crut que son cerveau lui jouait un nouveau tour, que ses maudites hallucinations reprenaient. Mais elle ne rêvait pas. Une tête de taureau trônait sur une bûche posée verticalement. Elle était énorme, avec ses naseaux couverts de givre, ses yeux remplacés par des billes en verre, ses cornes tordues et immenses qui pointaient vers le ciel. Vera manqua de vomir quand, du pied, elle rompit l'équilibre de l'ensemble et que la tête se renversa et dévoila son intérieur évidé jusqu'à l'os. Elle vit alors le Minotaure et un gigantesque labyrinthe dessiné au bout d'un pinceau qu'elle tenait dans sa main. Elle aperçut des visages penchés sur elle et un type avec un chapeau. Elle distingua, dans un flash qu'elle fut incapable de décrypter, des corps écorchés, ignobles. Elle entendit le claquement d'une bobine de film, ce bruit si caractéristique de la pellicule qui s'enclenche dans la crémaillère. Et ce puzzle de sons et d'images stoppa net, plongeant Vera dans un abîme d'interrogations. Les souvenirs de son ancienne vie étaient visiblement là, affleurants, aux portes de sa conscience. Il ne demandait qu'à jaillir, mais quelque chose encore les empêchait d'en franchir le seuil. Elle fixa son chalet. Le monstre devait être rivé à la fenêtre et guetter son retour, comme elle l'avait fait, folle qu'elle était, lorsqu'elle avait cru que Sophie Henrichs allait débarquer. De sa poche, elle sortit son couteau dont elle tira la lame glacée avec les dents. Ça lui parut une arme dérisoire au cœur de ce gros gant fourré, mais c'était mieux que rien. Elle avait peur, bien sûr, elle était même terrorisée, et malgré la douleur, l'épuisement, tout en elle lui criait de faire demi-tour, de se rendre au hameau, d'appeler à l'aide. Elle avait pourtant besoin de réponses, de croiser le regard de ce type et de comprendre le mal qu'il lui avait fait. Elle estima que l'espèce de taré qui avait posé cette horreur sur la bûche ne pouvait l'avoir vue dans l'obscurité. Elle quitta donc le sentier et s'enfonça dans la forêt afin de contourner l'habitation. À plusieurs reprises, elle trébucha, avalée par des trous, déstabilisée par des rochers ensevelis sous la neige. Elle était à bout de force, quand enfin, le ronflement du groupe électrogène se fit entendre et finit par couvrir le bruit de ses halètements. Elle se glissa près des toilettes, respira, épuisée, et observa les alentours. Dès qu'elle en fut capable, elle s'avança, sa lame brandie, puis se jeta brusquement sur la porte, comptant sur l'effet de surprise. Une grande silhouette masculine se tenait de dos, repliée dans l'ombre, là-bas, près de la radio, au-dessus de son jeu d'échecs. Elle se figea soudain. « Tu ne peux pas savoir à quel point nos parties m'ont manqué. » Cette voix, c'était comme une aiguille qu'on lui plantait dans le cerveau. Vera sentit une chaleur bienfaitrice couler le long de ses cuisses. Une flaque se forma à ses pieds. Elle dut s'accrocher à la poignée pour ne pas chanceler. À cet instant, l'homme fit volte-face. Des poches sombres entouraient ses yeux protégés par d'épais sourcils noirs. Des yeux qui ébranlèrent, en elle, le barrage de sa conscience et libérèrent le violent flot de ses souvenirs refoulés depuis des mois, des années. Il braqua sur elle un pistolet et il tira.